Les grands événements du Collège de France.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre présence pour cette quatrième rencontre du cycle de la Comédie française au Collège de France, consacrée à l'espace de la scène. Et on va commencer par un extrait, si vous voulez bien.
Mon Dieu, vous m'avez donné ce pouvoir que tous ceux qui me regardent aient envie de chanter. C'est comme si je leur communiquais la mesure, tout bas. Je leur donne rendez-vous sur un lac d'or. Celui qui ne sait plus parler, qu'il chante. Il suffit qu'une petite âme ait la simplicité de commencer. Qui commence ? Il suffit qu'une petite âme ait la simplicité de commencer. Et voici que toutes, sans qu'elles le veuillent, se mettent à l'écouter et répondent. Elles sont d'accord. Vous êtes d'accord ? On chante ? Je commence.
Alors, une fois n'est pas coutume, Eric, vous avez Ruff, vous avez choisi d'ouvrir cette rencontre avec un extrait du Soulier de Satin, qui est un spectacle que vous venez de mettre en scène et de scénographier à la Comédie Française, salle Richelieu. Plus fort, car cette production porte en elle un joli paradoxe pour le décorateur que vous êtes, puisque vous avez choisi de ne pas faire de décor. Paradoxe, nous le verrons, sera l'un des maîtres mots de cet échange, car il porte en lui l'essence de votre pensée sur l'espace de la scène. Scène et salle, intérieur ou extérieur, rideau de scène et rideau de fer, autant de rapports qui se trouvent aussi bien dans le bâtiment théâtre que dans l'objet de la représentation qu'on y donne. Qu'est-ce donc que cette boîte noire, exiguë et rêche, dans laquelle, d'un côté ou de l'autre du rideau, se noue un pacte qu'on pourrait dire enfantin? On dirait qu'ici serait le monde. Et comment ce pacte d'illusions partagées produit-il des images plus vraies que nature? Pour répondre à ces questions, Eric Ruff, donc le metteur en scène, le scénographe, mais aussi l'acteur, car dans la conception de l'espace de la scène, l'esthétique ne saurait se substituer aux pratiques. Un décor doit se jouer, et il ne suffit pas qu'il soit beau pour remplir sa mission. Il définit l'espace et l'atmosphère, il induit aussi des déplacements, les points d'appui, et détermine de ce fait ce que sera le geste de la mise en scène. À ce titre, donc, l'espace pensé par un metteur en scène, acteur, scénographe, revêt des tactiques et des petits arrangements que le public ignore souvent, sinon en se disant que ça marche ou, à contrario, ça ne marche pas. Au départ, donc, était le texte, mais à partir de lui, comment fait-on objet commun, cohérent et praticable? Comment pense-t-on l'espace de la scène? Les images portent-elles une narration? Comment décor ou absence de décor, costumes et lumière jouent-ils de la convention? Quelles sont les grandes étapes qui mènent à lever le rideau sur un univers qui semble évident? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Et pour commencer, une question de novice. Quelle différence faites-vous, Eric Ruff, entre décorateur et scénographe? Et êtes-vous les deux?
Alors je ne suis pas du tout historien scénographe. J'ai pas fait d'école de scénographie. Les écoles de scénographie existent depuis assez longtemps, mais pas tant que ça. Pendant très longtemps, les scénographes ont été ou bien des bricoleurs qui étaient intéressés ou des directeurs techniques qui étaient intéressés par la mise en scène ou des metteurs en scène qui étaient un peu bricoleurs, ce qui était mon cas. Je crois savoir qu'on dit décorateur parce qu'on disait peintre-décorateur. Pendant très longtemps, les maquettes de scénographie étaient dans des cartons à dessin parce que c'était des plans qui étaient toujours... qui translatait comme ça sur le plateau, qui créait des perspectives. Donc en fait, c'était des toiles et sur des châssis en bois, tout simplement. Donc ce qui faisait le décor était l'art des peintres, décorateurs. Un peintre décorateur de théâtre est quelqu'un qui sait peindre une toile qui potentiellement n'est pas très belle lorsqu'on la regarde à un mètre ou lorsqu'on est acteur. Elle est grossière. Dès qu'on recule de 5, 6, 10 mètres, 30 mètres, elle devient absolument merveilleuse. C'est un art extrêmement, extrêmement précis. Donc je pense que le peintre décorateur, et puis ensuite le décorateur vient de là, et le scénographe est peut-être un métier un petit peu plus moderne, à savoir que c'est la gestion de l'espace, du sens de l'espace sur un plateau, et ce pourquoi d'ailleurs on peut avoir besoin d'un scénographe lorsque le plateau est absolument vide. Au début de ma carrière, moi j'avais une compagnie, et dans cette compagnie il y avait 11 comédiennes et 10 comédiens. On passait dans des salles qui n'étaient pas très grandes. Et donc ce nombre assez spectaculaire et assez rare de comédiennes et de comédiens crée une scénographie humaine toute simple, et que déjà une chaise était un encombrement. Donc mes premiers sentiments de scénographie étaient induites par la présence des acteurs sur le plateau. Voilà tout ce que je sais de la différence. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit une explication scientifique, mais c'est la mienne.
Donc vous êtes les deux?
Non, je ne suis pas les deux, parce que j'ai fait une école de dessin et je crois être pas un très très bon coloriste, mais je crois être assez... Je sais dessiner, je suis assez incapable de peindre. Et je sais ce que c'est qu'un peintre de théâtre ou une peintre de théâtre. Il y en a aux ateliers de construction de la Comédie Française. C'est des gens qui sont des merveilles absolues, et j'ai tellement de respect pour eux que je ne pourrais pas prendre le nom de leur métier.
Dans la définition du travail sur l'espace de la scène, il y a un préalable dont on parlait tout à l'heure, qui est la convention établie entre le public et le plateau. C'est une donnée fondamentale pour le travail de scénographe et de metteur en scène. À quoi tient-elle, cette convention?
C'est peut-être là que j'ai un petit atout en tant que scénographe, c'est que je suis acteur et que le sentiment de la convention, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce sur quoi s'accordent les gens dans la salle, c'est toujours une chose qui m'intéresse, qui m'a toujours fasciné. Et si on ne s'appuie pas sur cet accord collectif, on peut faire des erreurs scénographiques. Je vous donne juste un exemple, pour le coup, que je n'ai pas maîtrisé, mais le résultat était positif. Vous voyez évidemment la scène du sac dans Scapin. J'ai fait le décor pour Denis Podalydès du dernier Scapin qui était fait à la Comédie Française. À chaque fois qu'on monte ce spectacle, il y a toujours un problème entre celui qui joue Géronte et celui qui joue Scapin. Ils sont copains au début des répétitions et généralement ça se passe pas bien du tout. Parce que Géronte dit toujours « tu me fais mal » quand tu tapes sur le sac, et Scapin répond « excuse-moi, mais moi je joue ». Donc cette différence-là, on s'était dit, et puis on avait un acteur... d'un certain âge, jouant Géronte, ce qui est tout à fait normal, et on ne voulait pas que ça se produise. Donc on a dû inventer quelque chose, on a inventé un sac, et dans le sac, je me suis dit, il faut qu'il y ait un leurre. Donc les accessoiristes ont inventé un petit robot qui tournait dans un sens comme dans un autre, comme avec un bip pour ouvrir la porte de garage, pratiquement. Et puis on avait à l'intérieur aussi un baffle qui permettait de lancer l'enregistrement de la voix du vrai Géronte qui était donc censé être dans le sac. Quand le sac tournait, on entendait « et c'était la voix qui sortait du sac, évidemment. Et moi, toute ma fierté de scénographe, c'était de réussir à faire croire au public que l'acteur était vraiment dans le sac. Sauf que le sac était suspendu à une grue et passait à un moment dans un trou dans le plateau, ce qu'on appelle une trappe. Et c'est là que le faux sac était ôté et que l'acteur revenait avec le vrai sac pour jouer les trois interruptions de la scène où il est censé dialoguer. Et évidemment, je me suis dit, tout le monde va dire, alors c'est là qu'il y a le truc, comme un magicien qui passe derrière un paravent, tout le monde s'accorde pour dire, c'est derrière le paravent qu'il y a le truc. Et puis à la première, je me suis aperçu que les gens croyaient qu'il était vraiment dans le sac. Et ils le croyaient sur une convention que je n'avais absolument pas prévue, c'est que l'acteur Didier Sandre, qui était dans les dessous, était maquillé de plus en plus, mais il était devant un miroir avec une maquilleuse tout à fait tranquille. Et puis, quand il ressortait, il était de plus en plus en sang, comme si la bastonnade lui avait fait de plus en plus mal. Et pour les gens, je me suis aperçu que le public pensait qu'il était dans le sac à cause du sang. Qui sortait de plus en plus. Ce qui, évidemment, est impossible. On ne se maquille pas dans un sac. On ne peut pas loger une maquilleuse dans un sac. Mais finalement, c'est ça qui marchait. Donc, c'est l'intérêt de savoir pourquoi... j'ai coutume de dire que le théâtre est l'art de la crédulité, que les gens de 7 à 77 ans et plus jeunes et plus âgés que ça encore s'accordent à croire à quelque chose. On croit que c'est le roi qui rentre, on croit que... à la Comédie Française, il fut un temps, même Camille, dans On ne badine pas avec l'amour, jouait ce rôle à plus de 50 ans. Donc en Perdican lui disait « Quel âge as-tu, Camille ?» Elle répondait « 28 ans ». On n'entendait pas la dizaine, voilà, ce qui la préservait un petit peu. Et cette convention-là, le fait de pouvoir s'accorder que cet acteur dont on sait qu'il n'a pas l'âge du rôle, eh bien, c'est le rôle quand même. De même que de faire semblant de sortir d'une voiture pour rentrer avec le bruit de la portière, tout le monde, évidemment, sait qu'il n'y a pas de voiture en coulisses, mais s'accorde pour cette chose-là. Donc, si le scénographe ne sait pas ça, il ne sait pas à quel degré il peut s'appuyer sur le réalisme ou non qu'il doit présenter dans l'espace.
Mais justement, le réalisme, je vous ai entendu plusieurs fois parler de la difficulté de représenter un certain nombre de choses sur scène, et notamment la nature, ou le besoin qu'on a de faire faux pour avoir l'impression que c'est vrai. À quoi ça tient, ça, le réalisme au théâtre? Est-ce que ça tient au fait, justement, de ne pas l'être?
C'est quelquefois une des difficultés de la mise en scène, notamment lorsqu'il s'agit de répertoire. Les gens viennent très souvent au théâtre reconnaître ce qu'ils n'ont jamais vu. Donc c'est pas facile de trouver la cible et la mire qui soit la bonne. J'ai eu la chance de monter Roméo et Juliette, et en fait tout le monde croit savoir ce que c'est que cette histoire, croit savoir quelles sont les qualités de Roméo, alors que ces qualités-là sont une sorte de... des nuages flottants faits de la pièce de Shakespeare, du ballet, de la série, des différents films, etc. Et que très souvent, quand on écoute les gens parler, ça n'est pas du tout la pièce d'origine, ça n'est pas la pièce de Shakespeare. Donc, tout l'intérêt est lorsque l'image, lorsque le rideau se lève, s'il y a un rideau, c'est que les gens soient immédiatement un peu déplacés par rapport à ce qu'ils attendent. Ce qui est pour moi, la condition à ce qu'ils entendent. C'est-à-dire que, comme ils sont un peu surpris, les premières répliques tombent dans un champ un peu plus inconnu, alors que sinon, les gens se disent Patrice Chéreau, lorsqu'il a monté Phèdre, il ne l'aurait jamais monté à l'Odéon 6e, parce que les ors de la salle, les pampilles, les girandoles, le rideau, les peintures font que les gens se disent « Ok, c'est une tragédie, ils vont arriver en toge, il n'y a pas de problème ». Il l'a fait aux ateliers Berthier que nous avions inauguré parce qu'il était persuadé que les gens s'asseyant se disent « Comment est-ce qu'on peut jouer une tragédie comme ça, sur une dalle en béton ?» quels vont être les costumes, et que immédiatement la mire de ce qu'ils attendent se déplace, et on a une oreille extrêmement attentive. L'autre exemple que je puisse avoir, et qui est très, très exemplaire là-dessus, j'ai dû faire une gondole à un moment pour Lucrèce Borgia, où Denis voulait que ces jeunes seigneurs qui fantasment la figure de Lucrèce Borgia, comme ça, puissent le faire dans un lieu retiré, dans un cimetière de gondoles. On s'était dit, tiens, il doit bien y avoir des cimetières de gondoles quelque part. Donc, comme une case de bagnole, mais version maritime. Et donc, j'ai dit aux ateliers de construction, j'avais fait une gondole que j'avais maquettée avec du balsa. Et puis, j'ai amené ça et aux ateliers, ils ont dit, ben bon, on va regarder si ça s'achète sur eBay. Il n'y avait pas de gondole sur eBay. Et ensuite, eh bien, on a simplement demandé les plans d'une gondole chez des constructeurs de gondoles qui sont à Venise. Ça se fait encore beaucoup. Et quand on a reçu les plans et qu'on a regardé, on était très très étonnés parce que pour nous, c'était pas une gondole. C'est-à-dire la gondole vénitienne est à fond plat, ce qui est plutôt pour nous une embarcation en Camargue, voilà, et que dans l'esprit de tout le monde, une gondole a une sorte de quille, voilà, tout à fait normal. On s'est aperçu en plus que la gondole était tordue, parce que pour que le gondolier se mette d'un côté sans que ça l'agite, accuse, elle est totalement reprise dans sa forme. Et là, je me suis dit, mais si on met ça sur un plateau, personne ne va reconnaître la gondole. Alors que c'est la vraie gondole. De même que la torsion de cette gondole, si on l'a fait, tout le monde va dire mais tes ateliers de cœur sont non plus le niveau qu'il y avait parce qu'elle est tordue ta gondole. Voilà. Et que c'est assez passionnant cette chose-là de se dire que lorsqu'on est décorateur et qu'on doit aller chercher quelque chose de l'ordre d'un réalisme ou en tout cas d'une reconnaissance du public, eh ben il faut travailler sur, c'est pas le nuage à Eclude, mais presque, on doit travailler sur une chose qui n'est pas de l'ordre de la vérité, mais plutôt d'une espèce de définition commune. Comme si, par exemple là, si j'ai demandé à tout le monde « Décidez-moi une gondole », celle qui nous appartiendrait serait la somme de l'ensemble de toutes les gondoles dessinées, qui seront toujours un petit peu différentes, mais dont la somme, on va tous s'accorder que ça c'est une gondole, alors que le plan vénitien, pour nous, n'en est pas une. Donc ça c'est une autre forme, pour le coup, de conventions sur lesquelles il est toujours bon de pouvoir s'appuyer, en tout cas s'appuyer sur le fait que les gens sont capables de se mettre d'accord pour croire à un mensonge, lequel mensonge généralement peut dire des vérités profondes, un peu le principe du théâtre, mais cette chose-là m'a toujours passionné, je n'ai toujours pas réussi à la définir parce que il y a des salles qui s'accordent sur une convention et le lendemain, la salle ne s'accorde plus sur la même convention. Alors que bien évidemment, personne ne s'est dit dans la salle, entre des gens qui ne se connaissent pas, on aurait dit qu'on allait croire à la chose ou on aurait dit qu'on n'allait pas la croire parce qu'on n'est pas né de la dernière pluie. Il n'y a pas, c'est tacite. C'est tacite, alors peut-être que ça, c'est une chimie, peut-être que l'acteur rentrant dans l'espace crédite quelque chose de la manière dont il le fait, peut-être que la manière dont la lumière se pose, des fois un top qui se fait 2 secondes après peut décrédibiliser quelque chose, mais c'est fragile et c'est pour ça que c'est passionnant.
Donc vous fabriquez de vraies images avec du faux, c'est le principe. Et vous dites aussi souvent que l'image doit être porteuse de sens, qu'elle porte la narration du spectacle que vous faites et de l'histoire que vous racontez. En d'autres termes, il ne suffit pas de faire beau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe-là, qui est qu'a priori, on a toujours envie de créer des belles images, sinon on ferait un autre métier, et que pourtant, la beauté n'est pas le seul critère à la création de l'image.
La beauté est une des émotions, mais évidemment que ça n'est pas la seule. Nous, les êtres humains, on a un pif assez impressionnant sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Alors, peut-être qu'on le perd de plus en plus avec nos algorithmes et l'époque que nous vivons, mais il n'en reste qu'on décide de reconnaître les choses ou non. Autre exemple, la végétation au théâtre est la chose la plus difficile à représenter. Finalement, une toile peinte. Dénoncer comme une toile peinte va raconter beaucoup mieux la forêt que si on essaye de mettre des vrais arbres. Mettre des vrais arbres, évidemment, on ne peut pas le faire. J'ai pour un décor d'opéra un jour fait des arbres. Et je suis tombé sur un problème assez intéressant aussi. C'est que c'était dans la banlieue de Rome. C'était un atelier italien. Et donc, pour faire les troncs, c'était très simple. Ils ont été faire des empreintes en plâtre sur des vrais troncs. Donc ce qui était magnifique, c'est que la sculpture du tronc, elle était absolument vraie. Et pas du tout, vous demandez à un sculpteur de le faire, même s'il va faire attention à ne pas faire l'écorce de l'arbre d'une façon systématique, il n'empêche que le geste humain, on systématise les choses et qu'au bout d'un moment, on sait que ce n'est pas un vrai tronc. Là, le tronc, il était parfait. Sauf que je n'avais pas compris que les feuilles d'arbre, qui je crois il y a quelques temps, était encore faite en Europe, des fois en tissu. Il y avait un vrai art de faire ces feuilles. Maintenant, ça vient d'Asie, ça vient de Chine, généralement. Et que lorsqu'il y a un conteneur de feuilles qui arrive de Chine, tous les opéras et toutes les maisons de théâtre d'Europe se précipitent dessus pour en avoir. Sauf que vous avez deux tailles de feuilles. Et en fait, il n'y a aucun arbre qui n'a que deux tailles de feuilles. Donc, on est comme des animaux qui ne s'approcheront pas de cet arbre-là en se disant « Oh, oh, il y a quelqu'un derrière, je vais garder de la distance. » Et j'ai fait un pari qui était que j'ai mélangé des essences de feuilles. Des feuilles d'érable, des feuilles de chêne, des feuilles de cerisier, toutes les essences de fausses feuilles qu'il y avait, qui donc avaient des tailles différentes. J'ai fait un arbre avec toutes ces essences-là. Donc, ça n'existe pas. Quel que soit le croisement qu'on peut faire, ça n'existe pas. Et pourtant, avec toutes ces formes de feuilles, ça ressemblait beaucoup plus à un arbre que les deux tailles de feuilles que j'avais. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont toujours magnifiques à anticiper, sachant que de temps en temps, on a beau anticiper ce que j'appelle l'autorité du plateau, le fait que tout d'un coup ça marche, la lumière est tellement importante là-dessus. Donc il y a le beau, et puis... il y a des choses qui sont pas belles, mais qui portent le sens d'une manière tellement extraordinaire. Autre convention aussi, où une maquette est faite généralement à proportion, évidemment, 25e, 33e, etc. C'est fait en carton plume, ce qui est un matériau extrêmement léger sur lequel on peut piquer des épingles. Et la plupart du temps, c'est du carton plume noir, parce que les salles, en général, sont noires et les cages de scène sont noires. Et je fais toujours attention à une chose, c'est que je fais toujours le cadre du théâtre, qui généralement le cadre de la Comédie française, par exemple, vous avez deux Atlantes, il est extrêmement décoré. Si vous allez à la MC 93, si vous allez aux Amandiers, ou si vous allez aussi à l'Odéon, c'est pas du tout la même chose. Et de temps en temps, un décor, lorsque vous le regardez dans la maquette et qu'il est entouré de noir, de cette chose un peu uniforme, et que vous faites, un couloir de métro, une façon extrêmement réaliste pour que presque ça sente le métro, avec, vous pouvez demander à des peintres décorateurs de faire les coulures de ciment absolu, de faire exactement les affiches qui sont déchirées, remettre, etc. L'art est tout à fait possible à produire de ça, sauf que si vous avez ce métro-là entouré par des atlantes, alors que l'œil du spectateur, sans le savoir, enregistre, évidemment, depuis... depuis sa place, il parcourt l'espace et il emporte les Atlantes avec, et que de temps en temps, le réalisme que vous avez travaillé, à cause de la présence du cadre décoré, se retourne totalement et devient un lieu absolument pas réaliste, comme une espèce de garage de Playmobil qui a perdu absolument toute essence profonde. Donc c'est, voilà, c'est toujours se dire que l'œuvre de théâtre n'est pas une œuvre intrinsèque, le décor de théâtre n'est pas une chose qui s'invente en soi comme un geste artistique. Il faut toujours qu'il anticipe la réaction du public et ce sur quoi le public, encore une fois, va pouvoir s'accorder.
Et par ailleurs, je vous ai souvent entendu dire aussi que scénographier au théâtre, mettre en scène au théâtre, c'était faire des plus avec l'ensemble des moins. C'était faire contre-contrainte théâtre. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette somme des moins qui provoque du plus?
On a une académie à la Comédie Française où on reçoit des jeunes actrices, des jeunes acteurs, et puis on a quelques profils techniques pour le son, la lumière, le costume, et puis la mise en scène et la dramaturgie. Et je suis tuteur, évidemment, parce que c'est un de mes métiers, je suis tuteur des scénographes. Et je leur dis à chaque fois, un an à la Comédie Française, tout sera plus facile après, parce que à cause de l'alternance faite dans une cage de scène qui n'est pas faite pour l'alternance, donc en fait, quand vous faites un décor, on commence par vous dire non, 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 je veux telle porteuse, non, c'est pas possible, c'est une porteuse de garage pour un autre décor, je voudrais m'implanter ici, non, c'est pas possible, j'ai besoin de faire un grand canapé, non, il ne passe pas dans les dessous, donc c'est un ensemble de contraintes. Donc je dis souvent que le métier de scénographe, quelquefois, c'est de réussir à faire un plus avec l'ensemble des moins. L'ensemble des moins étant toutes ces contradictions-là. Je repensais à la contrainte, je repensais à l'extrait que vous avez vu. Effectivement, je quitterai mes fonctions à la Comédie Française avec un spectacle apparemment sans décor. Il y en a quand même. Il y avait des contraintes techniques que je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais je ne pouvais pas avoir de décor vraiment constitué. Et en même temps, Claudel dit la scène est le monde. Et comme chez Shakespeare, on passe d'une scène à l'autre extrêmement rapidement avec des ligatures extrêmement serrées. Donc le fait de faire un beau décor, de faire une belle image, ça demande une installation qui demande forcément une désinstallation. Et donc la qualité d'un scénographe est aussi de respecter le rythme de la narration, le sentir, savoir le lire et le respecter. Des fois on tue une histoire en l'arrêtant. Comme des fois quand vous racontez une blague, vous pouvez la tuer ou mal la raconter parce que tout d'un coup vous vous arrêtez ou que vous allez trop vite. C'est exactement la même chose. Donc la contrainte de ne pas avoir de décor, elle m'a paru fertile. J'aime toujours beaucoup les contraintes. Le fait de me dire, mais finalement la cage de scène nue, dénoncée, avec les autres décors posés dessus, de l'alternance, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle raconte de monde de travail aussi, de ce qui fait voyager, tous les outils qui font voyager, me semblait une possibilité de décor dans son moins, beaucoup plus puissante, beaucoup plus évocatrice. Et puis, tout en travaillant, pour celles et ceux qui ont vu le spectacle, il y a un moment, une sorte de mort clinique, un ange gardien qui vient dire à un personnage « C'est maintenant le moment de ta mort, tu vas gagner une sorte de gloire ou de lumière céleste. » Donc il y a une transcendance. Ben, dans une cage de scène, il y a ce qu'on appelle des vols qui, quelquefois, sont extrêmement complexes avec des fils de Kevlar, enfin voilà, des trucs où vous voyez quelqu'un voler, c'est comme chez les magiciens, vous ne voyez pas ce que c'est. Et puis il y a aussi des techniques, simplement des porteuses avec des câbles, et puis des mousquetons, et puis des harnais, un petit peu comme en varap. Et je me suis dit, je peux peut-être le montrer tout simplement, à savoir que ben, quand on pense à une mort clinique, on pense toujours qu'elle est droite, on pense toujours que le ciel chrétien est là-haut, donc il suffit que l'actrice monte et descende. Et je trouvais ça un peu maigre, et en même temps, ce simple mouvement que tout le monde comprend, sur lequel tout le monde s'accorde que la transcendance c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est quelqu'un qui monte. Voilà. Et quand tout d'un coup on dit, ben non, tu n'es pas encore mort, tu vas réintégrer ton corps, c'est quelqu'un qui redescend, exactement comme... on descend quelque part, mince, j'ai oublié mes clopes, je suis obligé de remonter. Vraiment, c'est cette chose-là aussi logique que ça. Et je me suis aperçu que ce texte, qui est très complexe de la part de Claudel, très beau, que Marina Hans dit magnifiquement, est totalement éclairé par cette simple mécanique. Même les gens ne sont pas inquiets de ne pas comprendre la profondeur du texte, parce que la géographie même de la pensée, elle est montrée d'une façon très simple. Autre moment, avec cet ange gardien, elle est censée voir son corps comme un dédoublement, comme on dit d'une mort clinique. Les gens racontent que j'ai gagné le plafond et je me suis vu sur le lit d'hôpital. Et elle est censée le commenter avec l'ange gardien. L'ange lui dit, regarde si tu peux encore t'y accommoder. Je lui dis, comment je fais ça? Bon, y a de la vidéo, y a des paper ghosts, enfin on peut faire pas mal de choses, mais en convoquant beaucoup de techniques. Et avec Marina, en répétition, on s'est juste dit, mais si tu choisissais un spectateur et que tu allais le voir et que tu le touches en disant, est-ce que c'est mon corps? Est-ce que je suis dedans ou dehors ce corps? Et regarder cette femme-là du public en lui disant, pauvre prouesse, comme je te plains. Et c'est la solution la plus bête qu'on ait trouvée, parce qu'il fallait bien qu'on en trouve une. Et dans l'absence de solution technique, cette solution-là, qui est presque une solution d'enfant, est finalement la plus évocatrice et la plus incroyablement efficace. Donc voilà, c'est en ça que se méfier de la technique, de temps en temps, la convoquer au bon endroit, mais accepter régulièrement que la chose la plus simple marche le mieux. C'est aussi un truc d'acteur, ça. Quand on est jeune acteur, on a toujours envie de grimper au rideau, on a toujours envie de montrer à quel point on est puissant, à quel point on a envie de faire ce métier. Donc on a toujours tendance à hurler de cour à jardin en courant comme un dingue et puis en s'écrasant sur le pompier de service de l'autre côté. Et donc on calcule notre qualité au bleu qu'on a sur les genoux, pratiquement. Puis à un moment, on s'aperçoit que juste traverser en pensant à autre chose est quelquefois beaucoup plus puissant pour le public, dans l'organisation même du spectacle. Et donc on s'aperçoit que quelquefois l'économie est puissante et que le fait de tout donner est juste une sorte de qualité olympique. En tant qu'acteur, j'ai toujours repéré quand les gens sortent en disant oh, tu es très fatigué, hein. C'est le pire, c'est qu'on a vraiment très très mal joué. C'est que les gens n'enregistrent que cette chose-là. C'est voilà, on a couru un marathon, c'est très impressionnant, comment vous faites pour apprendre tout ce texte, etc. Tandis que quand vous sortez et que les gens vous disent « elle est quand même incroyable cette pièce », là vous avez fait le bon boulot et que vous avez trouvé dans votre investissement physique, dans votre pensée, ce que, je crois que je l'ai déjà dit ici, mais ça fait pas longtemps que j'ai trouvé cette définition-là du jeu d'acteur. Quand on me demande, je dis tout le temps, il y a la littérature qui serait le A et l'incarnation qui est le Z. Et que l'art de l'acteur est de déplacer le curseur sur cet alphabet-là, tout le temps. Quelquefois de scène en scène. Savoir, reconnaître que simplement dire une phrase dans l'espace du plateau, la dire comme si on la lisait, c'est là qu'elle a le plus de puissance, et que si on a envie de se mettre dans la phrase, eh bien immédiatement elle ne s'entend plus. On se met devant. Donc il y a des œuvres de discrétion, puis d'autres fois il y a aussi des moments où en tant qu'acteur on sent qu'il faut porter quelque chose, on sent qu'il y a un moment de fading, on sent qu'il faut y mettre du caractère, on sent qu'il y a certaines littératures qu'il faut un petit peu aider aussi, elles ne sont pas toutes du même niveau, mais que repérer cette chose-là de scène en scène, de phrase en phrase, d'œuvre en œuvre et de répertoire en répertoire, c'est une des qualités attendues, je trouve, d'un acteur. Et le décor procède aussi de cette chose-là. J'ai joué, moi, dans des décors qui ne m'aidaient pas. J'ai joué dans des décors où les gens font « waouh » quand le rideau s'ouvre, et puis ça ne bouge pas. Et pendant 3 heures, on est comme des phalènes sur le bulbe d'une lampe, parce que les décors ne jouent pas avec nous contraint. Il nous écrase, ou alors une fois qu'il est posé, on n'arrive pas à l'utiliser. Voilà, quelquefois on peut pas s'appuyer dessus parce que c'est un peu fragile, parce qu'on va voir que ça bouge, etc. La convention, le merveille de la convention, ce qui est faux, ce qui est vrai. Dans Roméo et Juliette, il y avait des grandes tours. Elles étaient tellement hautes que si on avait dû le faire en contreplaqué, en CP, ça aurait été beaucoup trop lourd. Donc les techniciens m'ont dit, Eric, on va pouvoir mettre du CP jusqu'à 2 mètres, mais ensuite c'est plus que du bâton et on va tendre la toile dessus le plus possible. Mais je te préviens, si tu bouges et que tout d'un coup la tour s'arrête d'un coup, ça va faceiller. Parce qu'au cours des représentations, la toile se détend, voilà, c'est normal. Et j'ai dit, mais j'aime tellement cette idée-là. Parce que c'est Shakespeare. Justement, Shakespeare, on y croit, le personnage joue et tout d'un coup, immédiatement, il sort de son personnage puis il en fait le commentaire avec le public. C'est toujours du vrai et du faux. Donc tout d'un coup, je me disais, ben tiens, ce défaut de construction, parce qu'en soi, on ne faisait pas ce que je demandais, on me disait, il va falloir que tu acceptes quelque chose, eh ben, c'est intuitif chez le spectateur. Ça fasait et c'est juste ce plaisir-là de dire, oh là là, je pensais que c'était minéral. Je pensais que c'était de la vraie pierre. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Je dis, mais de la vraie pierre au théâtre, vous êtes fous, quoi. Jamais de la vraie pierre au théâtre. C'est impossible à construire, c'est impossible à porter. Et le fait que tout d'un coup, ça faceille et qu'on découvre l'envers de la chose est toujours fascinant.
On a un petit extrait de Roméo et Juliette, si vous voulez qu'on le regarde maintenant. Enfin, si j'y arrive, parce que
c'était pas... Oh, voilà madame. Voilà mon amour. Oh, si seulement elle le savait.
Oh non, 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 non.
Elle parle. Elle parle. Oh, parle encore. Ange resplendissant.
Roméo. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et refuse ton nom si tu ne le veux pas. Jure de m'aimer, je ne serai plus une Capulet. Ton nom serait mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce qu'on appelle une rose sentirait aussi bon sous un autre nom. Quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait encore les perfections qu'il possède. Roméo, Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui n'était rien, prends-moi.
Oh, je te prends au mot. Appelle-moi seulement Amour et je suis rebaptisé. Plus jamais je ne serai Roméo.
Qui es-tu, toi? Toi qui, dans la nuit, viens trébucher sur mon secret.
Par un nom, je ne saurais te dire qui je suis. Mon nom, chère sainte, m'est odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi. Si je l'avais écrit, je le déchirerais.
Mes oreilles n'ont pas encore bu sans mot de ta bouche que j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu?
Ni l'un, ni l'autre. Vierge, si l'un et l'autre te déplaisent.
Comment es-tu venu ici, dis-moi? Les murs de ce jardin sont hauts et difficiles à gravir. Ce lieu est à mort si quelqu'un de mes parents te trouve ici.
Ce que peut l'amour, l'amour ose le tenter.
S'il te voit, ils te tueront.
Hélas, il y a plus de péril dans ton regard que dans 20 de leurs couteaux. Que ton œil me soit doux et je suis à l'épreuve de leur haine.
Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te voient ici.
Mais j'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. D'ailleurs, si tu ne m'aimes pas, qu'ils me trouvent. J'aime mieux ma vie finie par leur haine que ma mort différée. Sans ton amour.
Quel guide t'a amené ?
Elle est intéressante cette scène parce que vous avez fait le choix d'une représentation de la fameuse scène du balcon qui contrevient assez à l'imaginaire collectif de cette scène.
Oui, mais alors la scène du balcon, justement, elle n'est pas dans Shakespeare, elle est chez Rostand. Et qu'il y a souvent une grande confusion entre les deux. J'étais le metteur en scène et le scénographe de ce spectacle-là, donc effectivement, je me suis dit, bon, la grande scène qu'on attend « Roméo, pourquoi es-tu Roméo ?» etc. Je n'arrivais pas à comprendre cette histoire de balcon. Et j'avais une peur, c'est qu'une fois que vous avez construit un balcon, déjà c'est un peu difficile à construire, c'est en hauteur, c'est forcément devant l'espace, donc il faut le peinter à l'arrière pour que ça tienne. Si quelqu'un y va, enfin voilà, c'est, plus c'est haut, plus c'est complexe, plus c'est gros derrière en off. Et puis surtout l'actrice, une fois que vous l'avez coincée entre deux géraniums, c'est super, il y a le balcon, mais c'est une place qui n'est pas intéressante du tout pour jouer. Donc je me suis beaucoup posé la question, et en plus dans l'œuvre, Roméo, il a investi un bal chez ses ennemis, donc c'est pas un trouillard, il a déjà passé deux murs pour venir jusqu'en bas, pourquoi il monte pas? Pourquoi est-ce qu'il monte pas? Au moins Christian, dans Cyrano, il monte. C'est-à-dire, Cyrano prend sa voix, fait toute l'oralité qu'il n'a pas, et puis à un moment, ben Christian, qui n'a plus à dire qu'un baiser peut monter, prendre le baiser de la gloire. Et là, en fait, non, c'est pas ce qui se passe. Et j'ai beaucoup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dans la nuit, quand il y a deux lits séparés, on avoue mieux les choses que lorsqu'on se voit? Est-ce qu'il y a un effet de mouche à rabier ou de confession? Est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce que la langue est plus précise, l'aveu est plus grand parce qu'on ne peut pas se toucher? Est-ce que c'est ça? Et puis je suis tombé sur une archive où on voit le globe du temps de Shakespeare, et en fait il y a un balcon où étaient les musiciens, et le globe... C'est une architecture qu'on connaît bien, mais qui est une architecture qui n'est pas un décor, qui est vraiment une architecture. Et il y a un balcon. Donc je pense que Shakespeare, à un moment, a dit, je ne sais pas, ben, grimpe là-haut. Ouais, c'est mieux, ça met un peu de verticalité. Je pense que ce n'est pas plus que ça. Donc, découvrant cette chose-là, je me suis dit, mais alors, cette scène qui est tellement attendue, si je fais un balcon, mais qui est tombé depuis quelques siècles, déjà je réponds un petit peu à côté. Et ce qui me semblait beau dans cette pièce, c'est que ça s'appelle Roméo et Juliette, ça pourrait s'appeler Juliette, parce que celle qui a le courage, celle qui est volontaire, celle qui sait ce qu'elle veut dans la pièce, c'est Juliette. Parce que Roméo, lui, d'abord Rosalinde, oh Juliette, enfin voilà, il fait le garçon, quoi. Et donc je me suis dit, mais elle fait le mur. Donc j'aimais bien cette idée que Juliette soit comme un chat qui grimpe à un arbre et qui ne sait pas comment redescendre, ou quelqu'un qui fait le mur et qui se coince dans un bout de corniche alors qu'il n'y a plus rien pour avancer. Et que pour Roméo, je me souvenais de ma maman me disait ça en disant, si jamais il y a un somnambule sur un toit, j'en ai jamais croisé, hein, je ne sais pas pourquoi ma mère me prévenait de cette rencontre, il faut pas les réveiller, parce que ce sont des gens qui ne savent pas qu'ils sont sur un toit. Donc tant qu'ils sont sur le toit et que tu leur parles normalement, ça va. Si tu les réveilles en disant « fais gaffe, t'es sur un toit », ils paniquent, ils ont le vertige et ils tombent. Et d'ailleurs, Suliane Brahim, qui était une magnifique Juliette, m'a dit, une fois que j'avais présenté tout ça, m'a dit « mais tu sais, Eric, j'ai le vertige ». Et je me suis dit, parce que là, vous ne le voyez pas, parce que c'est plutôt bien fait, mais elle a juste une petite ceinture avec une ligne de vie, un peu comme sur un bateau, quoi. Donc si jamais elle s'évanouit, elle ne peut pas tomber, elle va tomber à côté de la... Ce ne sera pas très joli à voir, elle va tomber à côté de la corniche, mais elle ne peut pas tomber jusqu'au sol. Mais quand on y est, puis en plus c'est comme sur un mât de navire, quand on est au niveau du pont, on a l'impression que ça ne bouge pas, il suffit qu'on grimpe de quelques mètres, et l'oscillation, évidemment, elle est beaucoup plus importante et impressionnante. Et en fait, j'ai accompagné Suliane pour le faire, et quand elle a découvert quel espace de jeu c'était... Et puis dans une salle à l'italienne, être en face pratiquement du second balcon, c'est-à-dire presque à équidistance entre le sol et puis la coupole, c'est une place de jeu extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on a tout le monde avec soi. Donc elle m'a dit, là j'ai plus le vertige. Donc c'est passé.
J'aimerais qu'on évoque une manière de scénographie que vous n'utilisez pas seul, mais qui est la scénographie matière. La scénographie matière qu'on a vue plusieurs fois à la Comédie Française. On a notamment eu une Nuit des Rois de Shakespeare, où la matière centrale était le sable, qui était mise en scène par Thomas Ostermeyer.
Du faux sable, oui.
Le Faux Sable, oui, par ailleurs. Mmh. Ou encore Electro-Rest, où là, on avait un énorme tapis de boue chauffé sur le plateau. Si on devait essayer de trouver une matière pour vous, ce serait sans doute la fumée, qu'on retrouve quand même assez régulièrement dans vos spectacles. Ce sont des matières qui sont des matières meubles, qui sont difficilement domptables. Pourquoi les utiliser? Qu'est-ce qu'elles apportent à un travail de scène?
Je pense qu'on a toujours ce... Même si la vérité, on essaie de la reconstituer, on a toujours le fantasme que si on la mettait sur un plateau, ce serait magnifique. Et en même temps, c'est une concurrence déloyale. C'est comme ce qu'on dit, hein, jouer avec un animal, c'est très dangereux. Et jouer avec un enfant, c'est très dangereux aussi. Parce que la vérité qu'il représente tue absolument le jeu. Les gens ne regardent que l'enfant ou l'animal. Mais il y a des... Anatoly Vassiliev, lui, a la passion des oiseaux, pas parce qu'il aime ces animaux-là, mais parce qu'un oiseau, un pigeon sur un plateau, voire même un pigeon dans une cage qui est dans les cintres, son roucoulement, la plume qui va tomber, le bruit que font les ailes sur la cage, c'est une vie qui n'est pas ordonnée et qui désordonne la représentation, donc qui apporte de la vérité à la représentation. Et je pense que lorsque Ivo van Hove, par exemple, voulait de la boue dans Electro-Rest, tout simplement parce qu'il disait, c'est juste l'histoire d'une femme qui est mise dans des conditions où on ne peut pas vivre, donc d'une certaine manière dans la merde, dans un sangat, dans de la boue, et que lorsque vous faites, vous condamnez des gens à vivre dans ces conditions-là, eh bien, on voit arriver des violences qui sont inévitables. Voilà. Donc il voulait cette chose-là, il voulait qu'il y ait une sorte de boîte comme ça, immaculée, qui représenterait un palais, et que tout autour, ça soit de la boue. Et je lui dis, il vaut de la boue sur un plateau de théâtre à l'italienne. En fait, c'est que des trappes. Déjà, puis j'ai une pente de 4%. Donc la boue va tomber sur les genoux des gens qui payent le plus cher. Je ne sais pas. Économiquement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, cette chose-là, et puis comment on va faire? Et c'était très important pour lui. C'est là où c'est merveilleux d'avoir des techniciens de théâtre et ceux qui les construisent, parce qu'ils sont capables d'inventer des choses dingues. Et plus, c'est que du prototype. Donc c'est aussi des gens qui adorent leur métier, parce qu'ils ne font jamais deux fois la même chose. Et là, ils ont juste réussi à trouver une toile... Une toile dans laquelle ils ont mis de la mousse pour qu'on puisse un peu s'enfoncer dessus. Et puis à certains endroits du plateau, ils ont fait comme un décaissement, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des trappes, ils ont fait des bacs où là, ils mettaient de la boue, mais d'une manière extrêmement resserrée. Ce qui fait qu'on voyait les acteurs marcher sur le plateau et tout d'un coup, leurs pieds s'enfonçaient, comme quand vous marchez au bord d'un étang dans de la vase, où tout d'un coup, vous avez du mal à récupérer votre basket parce que votre pied est tombé là où il ne faut pas. Voilà, et qu'on a réussi à faire ça dans l'alternance. Et là, cette matière-là, elle donne un sentiment. À tel point, d'ailleurs, que ça a été... C'est fou, l'imaginaire des matières. Ça a été compliqué, ce spectacle, pour une chose et que je n'avais pas anticipé, c'est que la boue, pour les gens, c'est très vite de la merde. Donc, rester assis dans la boue, c'est pas bien. Attendre dans la boue, c'est pas bien. Ne pas être considéré dans la boue, c'est pas bien. Alors que vous faites le même spectacle avec du sable, et tout d'un coup, c'est les vacances. Alors que c'est exactement la même chose. Et de même que j'avais un mal fou à organiser au niveau des équipes, qui se chargeait de la boue, et par extension, de la merde. Est-ce que c'est une spécialité? Qui fait ça? Est-ce que c'est les accessoiristes? Est-ce que c'est les machinistes? Est-ce que c'est les tapissiers? Qui se charge de cette chose-là? Ça a été extrêmement dur et pourtant le spectacle était magnifique parce que le sentiment induit qu'on ne peut pas énoncer, je pense que personne en sortant de la salle dirait « Ah oui, je comprends ce que ça veut dire, etc. » C'est un sentiment diffus mais qui est extrêmement, extrêmement important. Un peu comme voilà, la toile qui flotte chez Shakespeare. Là, le principe même du spectacle, le pitch que m'en avait fait Ivo van Hove, était simplement m'attirer au plateau, aussi simplement que ça.
Vous travaillez aussi bien au théâtre qu'à l'opéra. Je me demandais s'il y avait une différence de conception dans le décor, dans les scénographies, entre les deux formes artistiques. Est-ce que vous concevez les décors autrement ? Et est-ce que vous travaillez différemment avec les chanteurs et chanteuses et avec les acteurs et les actrices ?
Y a plus de monde à l'opéra. Donc ça veut dire, et généralement les plateaux sont plus grands, mais il n'en reste que, comme il y a plus de monde, la qualité des entrées et des sorties, où est-ce que peut se placer le chœur, comment est-ce qu'on doit voir des gens sur un plateau. Quand vous avez 3 personnes, c'est très facile de trouver les créneaux pour être à vue de tout le monde. Quand vous avez 50 personnes, c'est un peu les photos de famille, il faut mettre les petits devant, les grands derrière, etc. Alors que dès que vous avez un escalier, dès que vous avez un peu de volume, ça change assez facilement. La difficulté, je l'ai fait une fois, j'ai adoré faire ça, mais c'était compliqué, c'est pour le ballet. J'ai eu la chance de faire la scénographie de La Source, qui est un ballet sur un argument de Minkus. Donc c'était à l'Opéra Garnier. Et c'est La Source, c'est une histoire d'elfes, de magiciens, de princesses caucasiennes, etc. Voilà, une espèce d'argument de danse. Pour le coup, c'était Christian Lacroix qui était au costume. Et j'étais censé faire un décor et on me disait, mais il faut que les danseurs dansent. Donc pas de marche, il faut que tout soit suspendu. À un moment, je voulais juste vernir. En tout cas, oui, rendre une partie du tapis de danse un peu réfléchissant pour que les lumières puissent, un peu comme une plaque de verglas, voilà, parce qu'il fallait bien que je parle un petit peu d'humidité, ça s'appelle La Source, il fallait que je le fasse, et ça n'était pas possible, parce que le revêtement même, le fait de changer la matière d'un tapis de danse, peut potentiellement gêner les danseurs, ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a des matières sur lesquelles on fait glisser un chausson extrêmement facilement, et puis une matière sur laquelle ça peut s'accrocher plus difficilement. Donc là, c'était différent pour le coup. Et autant les acteurs adorent faire les guignols dans le décor, ils adorent les escaliers, ils adorent grimper aux fenêtres, ils adorent tout ça, les chanteurs, c'est un peu moins leur cas. Donc pour le coup, il faut, c'est aussi tout simplement que il faut chanter, il faut regarder le chef d'orchestre. C'est pour ça qu'il y a des écrans de chaque côté. L'acteur, il n'a pas besoin. On a une sorte de rythme intérieur de l'œuvre qui se solidifie assez rapidement. Et puis personne n'est à la baguette. Il y a une espèce d'accord tacite sur le rythme à tenir. C'est étonnant, hein, même sur le soulier de satin, il y a quand même, je sais pas, 6 heures, un peu plus de jeu, et on diffère de 1 minute à peine. Donc on pourrait se dire, quand même, sur une telle distance, on va prendre 5 minutes, on va prendre au moins un quart d'heure, 10 minutes, etc. Mais au bout d'un moment, comme s'il y avait un rythme organique, les chanteurs, eux, ils ont évidemment besoin d'avoir toutes les levées du chef, parce que souvent, musicalement, c'est difficile. Et puis, ils ont besoin d'être aussi vers la salle le plus possible. Lorsque l'orchestre est très fort, il n'y a pas d'autre moyen que de chanter devant, parce que le moindre trois quarts ou le moindre profil fait qu'on n'entend plus. Donc, ils ont un peu plus, ils ont moins le réflexe d'aller jouer avec le décor, donc c'est à nous, metteurs en scène, ou bien de faire un décor qui sert. Moi, j'essaye, c'est peut-être ma qualité de scénographe, comme je suis acteur, je sais ce que c'est qu'une boîte à jouer, je sais ce que c'est que la possibilité d'une porte, je sais ce que c'est que la circulation derrière, je sais ce que c'est que de pouvoir rentrer extrêmement rapidement, quitter un endroit, pouvoir rentrer de l'autre. Cette circulation-là, de temps en temps, si le scénographe n'a pas l'habitude de travailler au plateau, c'est plus difficile. Régulièrement, les scénographes que j'ai à l'académie, je les fais jouer dans les spectacles. Souvent des rôles où il y a très très peu de texte, parce que c'est pas du tout leur métier que de jouer, mais ils prennent connaissance de ce que c'est que de jouer dans une scénographie, parce qu'on peut juste la regarder le jour de la première et ne pas comprendre pourquoi il y a des problèmes quand on est à l'intérieur, passer avec un costume dans une porte tout simplement, ou réussir à gagner un petit peu, à se détacher de quelque chose, réussir à gagner une lumière et être suffisamment loin pour assombrir un pan de mur. Voilà, tout ça sont des choses qu'on comprend lorsqu'on est au plateau.
Je vous propose qu'on regarde un autre extrait de La vie de Galilée de Brecht, que vous avez monté en 2019.
qui se rapproche.
Le bord du croissant est tout à fait irrégulier.
Ce sont des montagnes.
Sur une étoile.
De gigantesques montagnes.
Cela contredit 2000 ans d'astronomie.
Exactement. Oh, messieurs les représentants du gouvernement du Cal, Frioli, venez.
Vois trop bien avec cette chose. Je vais devoir dire à mesdames que le bain sur la terrasse, ça n'est plus possible.
Ils avaient raison.
Qui?
Les Copernicains.
Et l'autre aussi.
Ils avaient raison.
Ne hurle pas dans tous les sens.
Comment fou.
Et où est Dieu?
Ne regardez pas en bas.
J'ai horreur du vide.
Ce que je t'ai dit hier, l'as-tu compris?
Quoi, l'histoire de Copernic avec la rotation?
Oui.
Non?
Ah.
Mais pourquoi voulez-vous que je comprenne? C'est très difficile.
Mais justement, je veux que toi aussi tu le comprennes. La perpétuation de la science me semble requérir une vaillance particulière.
Va pas, Florence. Venez.
Il me semblait intéressant de voir cet extrait parce que je trouve qu'il illustre assez bien l'équipe artistique fidèle avec laquelle vous travaillez sur l'ensemble de vos spectacles. Mm-hmm. Je pense évidemment à Christian Lacroix au costume, à Bertrand Couder à la lumière, mm-hmm. à Ghislaine Lefebvre à la chorégraphie, à Vincent Leterme à la musique, à Léonidas Trapatsekis à la collaboration artistique qui est ici avec nous. J'aimerais savoir ce qu'il se passe concrètement quand vous choisissez une œuvre. Qu'est-ce qui se passe et comment vous travaillez en commun? Quel est le processus de travail en commun avec ce groupe constitué maintenant depuis d'assez nombreuses années?
Alors, lorsque je fais moi-même la scénographie d'un spectacle que je mets en scène, tout procède de la lecture que j'en ai. Et j'essaie de résoudre des problèmes. Là, par exemple, sur la vie de Galilée, qui se passe sur plusieurs années, c'est un homme qui vit à Padoue, qui est une sorte de mathématicien, qui vivote de ses études et qui a très très envie d'être connu, enfin, en gros d'aller bosser au ministère, quoi, et d'être connu et de finir au Collège de France, d'une certaine manière, voilà, d'aller un petit peu haut comme ça. Et en fait, ben, il est à Padoue, et puis ensuite il est à Rome, à un autre moment il est à Venise, et c'est que la description de, il est que dans des palais, et donc j'ai essayé de regarder quelle était la différence à l'époque entre un palais vénitien et un palais romain, c'est à chaque fois à peu près la même chose. Et le sentiment que j'avais, je me disais, ce qu'il y a d'assez beau dans cette pièce chez Galilée, c'est qu'il est croyant. Donc c'est pas un révolutionnaire de loin, c'est comme un Jonas dans la baleine. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est croyant, qui a une vraie foi, sans doute une voix paysanne, mais dont l'art scientifique découvre une chose que personne n'avait vue et qu'il a besoin de faire partager. Donc c'est comme s'il était dans le cheval de Troie. Donc je me dis, comment est-ce que je peux faire montrer un homme tout petit qui se bat contre les statues de l'île de Pâques, alors que lui-même est un Ilien de l'île de Pâques. Et je me disais que avoir ces grandes toiles de maître, on sait que ces toiles-là, elles étaient exposées. Hein. La plupart de ces peintres à l'époque gagnent leur vie en peignant des crucifixions, la Vierge déposée. Enfin voilà, les figures un peu obligées de l'Église catholique. Donc j'ai demandé aux peintres décorateurs de la Comédie française s'ils voulaient bien faire ça. Ils m'ont dit, mais avec une telle joie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peintre décorateur est celui qui ne signe pas. C'est un art absolument humble, mais il faut avoir une qualité dingue. C'est-à-dire qu'ils sont censés, lorsque vous leur donnez une maquette ou la reproduction d'un tableau, ils sont capables de retrouver le sens de la brosse pour faire exactement. C'est des faussaires extraordinaires et qui ne se permettent jamais de rajouter quelque chose ou de signer quelque chose. Leur art est justement de reproduire en grand ce que vous leur avez confié en petit. Donc ils étaient ravis de faire ça et je me suis dit, pareil, sur les toiles qui flottent, c'est pas de l'impression numérique. C'est facile à faire de l'impression numérique, ça peut être assez cher, mais l'impression numérique, déjà, ça se voit. Entre une toile qui est peinte et une toile qui est imprimée, ça n'est pas la même chose. Et puis surtout, la toile peinte, quand vous la rétro-éclairez, il y a un autre dessin qui vient. Il y a un dessin aléatoire qui vient et je voulais absolument montrer que ces immenses toiles catholiques pouvaient s'inverser très vite ou être dénoncées, être fragiles, comme une foi. On connaît tous des gens, des fois on n'a pas la foi et tout d'un coup par un effet de fragilité on l'a, ou de temps en temps on a la foi et par un effet de fragilité on l'a plus. Et il m'amusait que ces toiles justement puissent rétro-éclairer et que tout d'un coup le fake, le off prenne place. Donc une fois que j'ai trouvé cette idée-là, qui est bonne ou mauvaise, mais au moins ça unifie quelque chose de l'ordre de la narration, où en fait Galilée ne court pas géographiquement après quelque chose, il se court après lui-même et qu'il passe d'un palais à l'autre en ne sortant jamais comme un palais des glaces, en ne sortant jamais de la certitude des autres et de la révolution qu'il est en train de faire à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je passe la maquette. Le scénographe est toujours celui qui doit rendre son travail avant les autres, hein, parce que il faut faire la maquette part au bureau d'études, et ensuite il y a tout un travail très intéressant de construction avec l'ensemble des artisans dans les ateliers jusqu'à faire le vrai décor. Et le costumier, ça met un peu moins de temps à faire un costume qu'un décor, donc le costumier travaille toujours après. J'ai fait nombre de spectacles avec Christian Lacroix, et à chaque fois je lui donne le fond, je lui donne la maquette, parce qu'il sait que ces costumes vont résonner sur ce fond-là. Quelquefois, sur Roméo et Juliette, le fond, il est blanc. Il a beaucoup de matière, mais il est blanc, donc le moindre foulard de couleur va prendre une valeur absolue. Là, pour le coup, sur Galilée, forcément, il y a tellement de couleurs, l'image est tellement fournie qu'on peut tout à fait se perdre à l'intérieur, ce qui était aussi une difficulté pour la lumière. Et puis, en même temps, je disais, c'est drôle, ce Galilée, parce qu'il procède comme Jésus et ses disciples. Galilée, il se promène avec un jeune prêtre un peu défroqué, il se promène avec un gamin des rues qui est malin comme un singe et à qui il apprend sa science, il se promène avec Federzeni qui est un polisseur de lentilles, donc un artisan mais qui ne connaît pas le latin, de même que Jésus se balade avec celui qui a posé sa houe pour le suivre, celui qui a laissé son filet dans le lac de Tibériade pour le suivre. Donc on s'est amusé à pour le coup des costumes beaucoup plus beaucoup plus, pas uniforme, mais beaucoup plus neutre pour le coup, pour essayer de trouver un équilibre avec l'étoile. Donc à chaque fois, je lui donne l'ardoise, c'est comme s'il devait dessiner, je lui donne le décor étant une sorte de canson, et je lui donne ou un canson blanc, ou un canson noir, ou un canson sur lequel il y a déjà un dessin, ou un canson qui est déjà mouillé et déchiré, et c'est là-dessus qu'il travaille. Donc c'est plutôt dans cette ordonnance-là.
Avec un temps de rencontre assez drôle qui s'appelle la valise RTL. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, absolument. Ça, c'est le travail que je peux faire avec Christian Lacroix. Moi, je ne suis pas costumier du tout. En même temps, j'ai forcément la lecture des visions. En tout cas, je sais si je pense que le spectacle doit avoir une sorte d'historicité ou non, ou au contraire, s'il faut le contrarier en le mettant un petit peu hors temps. Donc, je lui donne cette définition-là. Puis, généralement, je lui envoie un descriptif des personnages. Si je sens qu'il y a... on a fait un Pélias et Mélisande, par exemple, et je lui ai dit, ce royaume d'Almonde, on a l'impression le dessin de Franquin avec le nuage qui pleut que sur la personne qui est en dessous, comme s'il y avait une condamnation, comme si c'était un royaume qui était condamné à la marée basse, voilà, où on remugle des algues comme ça, tout était humide, comme lorsque vous partez en croisière, que vous n'avez plus rien de sec à vous mettre et que tout est mouillé d'eau salée. L'impression qu'ils sont coincés là-dessus, et en même temps c'est un royaume, donc on a beaucoup travaillé sur l'histoire de grands manteaux, de vareuses, de ce qu'on met quand on a froid, et qu'en même temps je lui demandais d'entuler ses costumes de vieil or, comme d'or passé, comme quand on fait des cuivres et qu'on les a pas fait depuis longtemps, pour que tout d'un coup la présence de Mélisande réveille tous ces ors-là. Alors quand je raconte des histoires comme ça à Christian, Il est tout content immédiatement et il m'envoie la valise RTL, c'est-à-dire qu'il a une banque de données informatiques et puis aussi physique. Il a une immense bibliothèque et il va chercher tout ce qu'il a dans son souvenir, qui est de l'ordre du dessin, de la peinture, de la mode et évidemment de la photographie. Et il m'envoie tout, ce que j'appelle ça la valise RTL, tellement elle est immense. Il m'envoie tout ce qui lui fait penser à ça. Et ensuite, on a des allers-retours. Je sélectionne dedans ce qui intuitivement me semble rentrer dans le spectacle, même si j'en ai pas une définition précise. Et puis je lui renvoie cette sélection-là. Et à partir de cette sélection, il commence à construire des maquettes. Et puis je précise, moi, mes demandes aussi, en disant finalement, je n'aurai pas besoin de ces costumes-là. Ou si, il faut absolument que le costume de la reine, une fois qu'elle est passée dans la forêt, il faut qu'il soit altéré. Donc, est-ce que c'est deux costumes ou est-ce que c'est un seul que tu arrives à vieillir? Enfin, voilà, on rentre dans des choses un petit peu plus, un peu plus techniques, comme ça, jusqu'à la maquette finale et jusqu'au fait que... Christian ne définit jamais un costume sans voir l'acteur ou l'actrice en essayage. Parce qu'il sent immédiatement, avec l'habitude qu'il a, il sent la joie, la fierté de l'acteur ou la gêne de l'acteur. Ou il sent immédiatement aussi l'acteur qui s'est fait tout un paysage du costume qu'il allait avoir et qu'il ne reconnaît pas du tout quand il le met. Et c'est souvent très douloureux quand on est acteur parce qu'on... on a l'impression de représenter quelque chose. Bon, généralement, c'est des sentiments intérieurs qui ne sont pas du tout partagés par les autres, mais on a un paysage intérieur du personnage. Et quand tout d'un coup, on est totalement bousculé de cette image-là, ça peut être très douloureux. Alors, Christian Lacroix a cet art absolument magnifique de le sentir, de faire évoluer les choses pour que l'acteur s'empare du costume. Un costume juste mis sur un acteur pour qu'il existe sans l'acteur, ça ne marche jamais. Il y a toujours une chose à faire entre les deux pour que l'acteur se serve ou de la rigidité ou du formel du costume parce qu'il a un rôle à jouer de cet ordre-là, ou alors qu'il puisse le patiner et le bouger.
Il y a une chose qu'on a très peu évoquée, mais qui est fondamentale dans la scénographie, dans la création d'un spectacle, c'est la lumière. La lumière, Bertrand Couder, avec qui vous travaillez depuis des années, qui a été un des collaborateurs de Patrice Chéreau, entre autres, évidemment. Et à quel moment, en fait, vous commencez à travailler avec Bertrand Couder? Est-ce que c'est une fois que vos maquettes, celles de Christian Lacroix, sont faites, que vous commencez à échanger avec lui? Est-ce que c'est au plateau? Comment ça se passe?
Ma réponse peut être désespérante pour des jeunes gens qui veulent faire ce métier, parce que il y a presque quelque chose de l'ordre du couple qui se crée et sur lequel on devient fidèle. Pourquoi ? Parce que moins vous avez à parler avec vos collaborateurs et plus c'est simple. Voilà. Des fois, la définition d'un spectacle ou d'un sens fait qu'une fois qu'on l'a énoncé, on l'a un peu cramé. Et que le fait de tourner autour est plus intéressant. Le sens, il est fait de dit et de non-dit, comme la lumière est faite de lumière, évidemment, mais elle n'existe pas sans l'obscurité. Donc, toutes ces notions-là, au bout d'un moment, vous vous apercevez que vous travaillez avec des gens qui n'ont pas besoin que vous leur disiez comment éclairer la chose, sauf à certains moments, et que vous avez presque l'impression que c'est vous qui faites la lumière, tellement le travail qui est fait à vos côtés vous paraît absolument cohérent, simple. Donc c'est dur pour quelqu'un qui veut faire ce métier, se dire mais comment je rentre dans ce couple-là? Qu'est-ce que je dois prouver? Alors que justement le couple est fait d'une chose qui n'a plus à se prouver du tout et qui n'a plus, plus à se valider tellement elle s'épouse. J'ai déjà eu des éclairagistes avec qui je ne m'entendais pas, mais c'est pas du tout une question de nature, c'est une question de... J'ai déjà fait un décor où je voulais des lits clos bretons parce que c'était une histoire d'enfant effrayé. Et que je me souvenais de moi, dans une maison de location en Bretagne, vous savez, ces armoires sculptées là, avec des petits personnages, etc., que je trouvais très jolies dans la journée, m'inquiétaient dès que la nuit tombait, d'une manière très très forte. Donc je voulais repartir là-dessus, et donc j'ai parlé avec lui en disant mais ce serait beau que ça soit une lumière juste de chandelle qui fasse varier un petit peu le vernis de ces meubles, l'encaustique de ces meubles-là, mais donc une lumière tremblante qui justement bouge avec le vent et crée des ondes qu'on n'avait pas prévues, etc. Et puis, il a fait son travail et on ne pouvait pas s'accorder. Le spectacle s'est fait, il a eu beaucoup de succès, mais tout d'un coup, il y avait des gobos, de la lumière, des mauves, des verts, etc. Et que j'étais tellement loin des fantasmes à la Rembrandt ou à la Delatour que j'avais pu développer, que je n'ai plus travaillé avec cette personne-là, mais sans aucune fâcherie, avec Bertrand, depuis le début, depuis la première fois, je lui présente la maquette. Il me dit de temps en temps à quel point celle-ci est plus difficile à éclairer que l'autre, mais Bertrand vient à toutes les répétitions, pratiquement. Pas simplement pour savoir où est-ce que les acteurs vont aller, comment les éclairer aux places importantes lorsqu'ils ont le texte, mais il vient pour regarder, pour comprendre de l'intérieur le jeu, et donc ça fait que derrière, mais c'est comme Christian, je lui dis de temps en temps, j'ai pas besoin de cette besace-là, ou peut-être que cette manche-là donne un côté, mais sinon je suis tellement extraordinairement heureux de ces propositions, sans doute parce qu'on a un terrain presque littéraire, on s'écrit beaucoup, donc on a fait un matelas commun ensemble sur lequel toutes les propositions du spectacle peuvent se poser simplement.
Il y a deux choses que vous adorez en scénographie, c'est l'envers, ouais. Et Christian Lacroix a exactement la même affection pour vous que sur l'envers du costume, et la patine. Et alors ça peut paraître assez fou de se dire qu'à la distance qui sépare le spectateur de la scène, le spectateur de l'acteur, etc., la patine et l'envers puissent avoir une telle importance.
L'envers, moi, c'est aussi tout simplement une question de point de vue d'homme de plateau. J'ai vu plus de spectacles de la scène que de spectacles du public, parce que j'ai beaucoup plus joué que je ne suis allé au théâtre. Et le point de vue qu'on a sur les côtés d'un décor, ce point de vue échappant, transversal, qu'on n'a pas prévu, généralement, il est beaucoup plus beau que ce qu'on a prévu. Et que de temps en temps, j'aime à montrer que l'envers du décor, là où justement il y a de la technique, c'est peint en noir, il y a des guindes, il y a des numéros sur les châssis, il y a des choses un peu comme les compagnons du Moyen-Âge, on retrouve ça sur les pierres de bâtis des cathédrales, où les gens marquent qui l'a fait, de quelle congrégation ils font partie, etc. Il y a exactement la même chose sur les décors de théâtre. Et donc ça crée un mystère, et puis je trouve souvent que cette poésie-là, la poésie technique, la poésie du off, comme une cage de scène, est toujours magnifiquement belle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, la différence entre la salle et la scène, il y a des salles, quand c'est un peu des black box, il n'y a pas une grande différence entre les deux, mais dans un théâtre à l'italienne, c'est fascinant. C'est fascinant à quel point vous quittez un endroit feutré, rond, onctueux, confortable, et en 10 cm, qui est le rideau de fer, vous êtes dans un sous-marin. Tout est griffé, tout est heurtant, c'est du métal, les choses sont tombées, on a l'impression qu'un ours fou a griffé tous les murs, parce qu'à force de charioter du décor, tout est... on quitte entre le monde de la représentation et le monde du travail, c'est fascinant, c'est le miroir d'Alice, et que souvent, lorsque vous pouvez poser le regard sur... ce cumul de gestes précis et en même temps totalement imprécis, que c'est je pose, je dépose, je gratte, je perce, je m'appuie, etc. Ça fait une confusion de gestes dont la poésie est presque impossible à refaire. Et toujours pour cette question de convention, j'aime toujours faire des décors qui se retournent parce que on aime beaucoup ça en tant que spectateur, savoir comment c'est fait. Puis on aime beaucoup ça, se dire je me suis fait avoir, et c'est un plaisir enfantin, et j'ai le plaisir de savoir qu'on me montre comment je me suis fait avoir, et on me montre que ce que je pensais être une épaisseur de mur de 70 cm, en fait, fait 5 cm, et que c'est l'art des sculpteurs et l'art des peintres, le trompe-l'œil, qui marche encore incroyablement au théâtre. Un jour, j'ai fait un décor avec des azulejos, je le prononce très mal, donc ces faïences qui sont à l'extérieur au Portugal. C'était un Don Quichotte que je devais monter, et donc il y avait sur un mur d'immenses faïences comme ça, dont certaines étaient tombées, et qui représentaient un cheval et un âne. Et les peintres décorateurs m'ont dit « Ok, très bien ». Puis je lui ai dit ben, « Il faut évidemment qu'il y ait le joint entre les deux. » Et le joint entre les deux, en fait, ils le font avec un trait de blanc et un trait de noir. Et on se dit « Ok, bon, ben, une fois que c'est fait, on va voir de quoi c'est fait. » Et je regardais tous les acteurs monter sur le plateau et toucher en faisant « Oh !» Voilà. C'est-à-dire même quelqu'un à un mètre, était obligé de poser le doigt pour sentir avec la pulpe du doigt s'il y avait un volume ou pas, tellement il y avait l'air d'en avoir un. Vous savez, ce qu'on appelle les porteuses au théâtre, qui sont dans le sens de l'avant-scène, ces porteuses-là, il y en a, je sais pas, 56 à la Comédie-Française, ça sert évidemment à faire descendre des décors, ça sert à les garer aussi, donc ça sert tout le temps, et il y a à peu près 18 cm entre chaque poignée, entre chaque porteuse. Et évidemment qu'un volume de décor, l'épaisseur d'un décor qui serait trop important, ben, va s'accrocher avec tous les autres et ça peut être catastrophique. Donc on a droit généralement à entre 10 et 12 centimètres pour un décor. Et dans ces centimètres-là, il y a forcément la structure du décor. Il y a le châssis, qu'il soit en aluminium ou en bois, ça c'est vraiment comme une toile avec le châssis en bois sur lequel elle est tendue, et puis ensuite ben, il y a la matière même, que ce soit du bois, de la toile ou autre chose, et puis ensuite il y a la décoration de ça. C'est-à-dire que si vous voulez un rebord de fenêtre, pour que la lumière s'accroche sur le rebord de fenêtre, ben, il faut que ça puisse sortir au moins de quelques centimètres, et très vite on est excédent là-dessus. Donc l'art des peintres de théâtre est absolument fou là-dedans, à quel point ils sont capables de tripler un volume. Et ensuite, sur la patine, j'ai souvent observé ça, mais c'est presque une question philosophique de regard posé sur le monde. Il y a pas mal de... Il y a des décorateurs ou des metteurs en scène qui veulent absolument que votre œil aille là où ils veulent qu'il aille. Dans une direction qui quelquefois est utile, mais un peu dictatoriale. Voilà, donc de temps en temps, le panneau de couleur que vous avez à regarder est juste un aplat en plastique tendu, comme un cyclo. Et bon, une fois que vous avez vu que c'est vert pâle, il n'y a rien d'autre à regarder. Moi, en tant que spectateur, j'adore batifoler dans une image. J'ai jamais l'impression que je vais perdre quelque chose du sens si je ne regarde pas le dialogue entre la reine et le roi. Je peux tout à fait l'écouter en allant chercher les accroches, comment la lumière tombe sur un crochet, comment ça révèle le grain d'une fausse pierre, évidemment, pas d'une vraie. Et que j'ai moi toujours l'habitude d'essayer d'offrir ça au public. Et puis au peintre décorateur, encore une fois, parce que faire de la patine, c'est un art absolument certain aussi, et j'ai toujours l'impression que ça donne de la matière au récit, et que je n'aime pas les choses, la toile cirée où on glisse jusqu'à tomber dans la bonde déviée qui est prévue de sens. Je considère, j'appelle ça l'autorité du plateau. Moi, je suis toujours persuadé que je dois organiser les choses, mais que la vraie chose que les gens vont voir, c'est ce que je n'ai pas organisé. Et que c'est pour moi presque une définition du théâtre, c'est-à-dire que en tant que metteur en scène, je suis complété par les acteurs. La proposition des acteurs, dont ils ne savent pas que c'est une proposition, parce qu'elle est en train de s'improviser entre eux, est souvent beaucoup plus puissante que ce que j'ai prévu. Donc, ou bien je m'échine en disant je veux que ce soit ce que j'ai prévu, ou bien je fais semblant de l'avoir inventé, si je suis malin. Mais le fait de reconnaître cette chose-là est toujours un grand plaisir et une grande aide au théâtre. Il y a un bouquin d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Abraham, qui a écrit pas mal de quelques petits livres sertis magnifiquement, mais qui ne gagnait pas sa vie de sa plume, et qui était gardien de phare. Il a fait le phare et balise, et puis il a écrit un roman qui s'appelle Armen. En fait, son métier était de consigner la météorologie générale, et puis il ne pouvait pas s'empêcher de consigner la sienne même dans la même page. Et c'est assez, le grand et le petit est assez magnifique là-dessus. Et il donne une définition qui me fait penser au théâtre, et qui me fait penser aussi au décor. Les lampes Fresnel, vous voyez, c'est ces lampes biseautées qui réfléchissent encore plus la lumière et qui font que la lumière va à des milles et des milles du phare. Évidemment, à nettoyer, c'est pas simple. Voilà. Le carreau de nos cuisines, c'est tellement simple par rapport à ça. Et c'est le travail du gardien de phare. Donc il passe des heures au chiffon doux, au chiffon un peu plus rugueux pour tout faire. Et à chaque fois qu'il allume la lampe, il s'aperçoit qu'il y a des endroits qu'il n'a pas visités, malgré son labeur et son opiniâtreté. Mais exactement comme quand on fait les vitres, nous. Il y a toujours des traces de doigts, on se dit, mais c'est pas possible, j'y suis passé, là. Voilà. Et c'est un terme technique que je trouve magnifique, ça s'appelle des dimanches. Donc l'angle poussiéreux, la trace de doigt, ça s'appelle un dimanche. Ça s'appelle le jour où finalement on n'a rien à faire, où on n'a rien prévu, on peut peut-être un peu se laisser vivre. Et que moi j'adore les spectacles où il y a des dimanches. J'adore les spectacles où en tant que spectateur, je peux aller me balader dans des interstices, dans des choses qui peut-être ne sont pas prévues. Peut-être qu'elles sont tellement malignement prévues que j'ai l'impression que ça n'est pas prévu, c'est une chose aussi, mais que mon œil puisse serpenter. Donc comme j'ai ce plaisir-là en tant que spectateur, j'essaye de le rendre en tant que décorateur, en n'étant pas précis sur les choses, mais pour que l'œil puisse se balader, et puis que surtout une lumière puisse s'accrocher, une lumière latérale sur un mur, ça peut être absolument navrant, comme ça peut découvrir tout d'un coup un monde rugueux qui tout d'un coup va donner de la force à la phrase ou au monologue qui est dit. Ces rapports-là sont toujours magnifiques à trouver, et la matière est quand même un outil absolument formidable.
Je vous propose qu'on regarde un dernier extrait, qui est un extrait important de votre carrière, puisque c'est le tout premier décor que vous avez vu fabriqué par les ateliers de la Comédie Française, et le tout premier décor qui a été fabriqué par des professionnels, Cyrano de Bergerac, dans la mise en scène de Denis Podalydès.
Frisons-nous, gaflant, panroin, sol, bœuf en daube. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le dieu qui chante Ragueneau. L'heure du luth viendra, c'est l'heure du fourneau. Allonger cette sauce, elle est courte.
De combien?
De 3 pieds.
Hein?
La tarte.
La tourte.
M'amuse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces charmants. Vous avez mal placé la fente de ces miches. Au milieu, la césure entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. Et toi, sur cette branche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe, alterne-les, mon fils. Comme le vieux Malherbe, alterne les grands vers avec les plus petits et fait tourner au feu des strophes de rôti.
Maître, en pensant à vous.
Chut, ma femme, hein? Circule, va boire à ma santé. C'est beau.
C'est ridicule.
Des sacs, bon, merci. Ciel, mes livres vénérés, les vers de mes amis, déchirés, démembrés.
Les méchants écrivains de lignes inégales.
Fourmis, n'insulte pas ces divines cigales.
Alors, ça fait quoi de travailler pour la première fois avec des ateliers comme ceux de la Comédie Française, qui ont quand même cette particularité? Au-delà de l'immense qualité que les gens de la Comédie Française connaissent bien, et j'espère les spectateurs aussi, de savoir préserver des techniques anciennes, d'être capable d'y revenir, et en même temps d'être capable d'une immense innovation.
Ben, c'était le début, Cyrano, pour moi. J'avais fait des non-décors en compagnie, où lorsqu'il fallait fabriquer un truc, comme j'étais le plus bricoleur, je le faisais, mais sans jamais rien signer. C'était pas pour moi un décor. Et c'est Denis, que je connaissais bien depuis quelques années.
Denis Podalydès.
À qui on a dit, tu vas monter. C'était Marcel Bezonnet qui m'a dit, j'aimerais que tu montes Cyrano de Bergerac, qui n'a pas été monté depuis longtemps aux Français, et il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, tu vas jouer Christian de Neuvillette, ok, et tu vas faire le décor. C'était très intelligent parce que comme Christian de Neuvillette a très très peu de texte, j'avais le temps de me consacrer au décor plutôt qu'à l'apprentissage du texte. Mais il est vrai que je suis passé dans une autre dimension. C'est la première fois de ma vie grâce à Dominique Schmitt qui à l'époque qui a été directrice technique de la Comédie Française il y a quelques années et qui était à l'époque directrice des accessoires. Elle a bien voulu m'aider, elle m'a donné toute la part technique là-dessus et j'ai pu rêver avec Denis et avoir quand même, c'est un plaisir tellement fou quand on est décorateur que de bricoler une petite boîte qui est une maison de poupées ou un ranch de Playmobil et puis il y a un moment où vous allez aux ateliers et c'est en grand. Et quelquefois d'ailleurs, on prend des photos techniques de la maquette et puis on prend des photos techniques du décor, hein, où de temps en temps on passe dans un couloir et on voit l'image du décor qui est l'écran de retour, la caméra de retour, et on ne sait plus si c'est la maquette ou si c'est le décor, tellement il y a une fidélité absolument, absolument dingue. Et j'ai toujours adoré travailler avec eux, c'est un chemin tellement intéressant. Quand vous faites la maquette, vous êtes toujours, et que vous le présentez à la metteuse ou au metteur en scène, toujours un petit peu le trac, est-ce qu'on a travaillé dans le bon sens? Quelquefois les gens vous ont dit beaucoup de choses, quelquefois les gens vous ont rien dit. Des fois on vous dit, ben, fais ce que tu veux, ce qui est le pire. Voilà. Mais souvent, je sais que Denis, par exemple, quand tout d'un coup je lui dévoile quelque chose, je vois dans son œil d'enfant s'il est amusé ou pas. Et ça valide pour moi le fait que oui, c'est l'espace qu'il considérait. Pour Lucrèce Borgia, par exemple, Denis n'est absolument pas technique. Ça fait des années que je lui explique qu'un carré ne rentre pas dans un rond, mais il l'oublie tout de suite et me redemande ça la semaine suivante. Il n'est pas technique. Donc souvent, la qualité de ses indications, elle est extrêmement poétique. Un jour, il m'avait dit, mais c'est comme un bijou vénéneux dans la nuit, qui était sa phrase pour Lucrèce Borgia. Voilà. Et donc j'ai travaillé là-dessus, puis évidemment j'ai pas fait un bijou vénéneux dans la nuit, c'est pas un décor. Et je lui ai montré, et puis il m'a dit, ah mais c'est tout à fait ça. Je lui ai dit, on est d'accord que c'est absolument pas ça, mais j'avais à peu près bien transcrit ce qu'il voulait me dire. Mais j'essaie toujours que cette émotion-là, je me dis, il faut que des mois après, lorsque le rideau se lève et que vous, le public, vous êtes là, vous ayez quelque chose de cette émotion. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux, on traverse un chemin technique dingue, avec que des gens qui ont des solutions absolument spécialistes, un savoir, une expertise absolument dingue, et que si vous leur confiez tout, ben, potentiellement ça peut se perdre. Dans Lucrèce Borgia, j'avais des plans comme ça d'architecture vénitienne qui montraient les unes après les autres, étaient juste des fermes, voilà, comme des plans d'architecture, et lorsqu'ils se cumulaient, finissaient par donner une sorte de nasse à poisson, comme un piège, comme un filet. Et comme dans cette histoire, tu as des jeunes seigneurs qui se brûlent à l'amour, alors que tout leur dit de fiche le camp, ils viennent quand même, ils n'entendent pas, ils risquent leur vie pour la joie d'un baiser sur la joue. Je voulais justement que ça reste très léger et je me souviens que ces fermes-là, on m'a proposé de les faire en métal. De les faire en métal. Parce que c'était beaucoup plus simple, parce que c'était pas moins léger, mais en tout cas, ça n'allait pas flécher, pour plein de raisons. Mais je me suis souvenu que très souvent, Denis, dans ma loge, où j'ai la maquette, bougeait la maquette, parce qu'il est un peu maladroit, et que tout tremblait, comme ça, et que j'aimais beaucoup ce tremblement. Je l'avais enregistré en disant, tiens, mais en fait, les pièges les plus dingues, c'est ceux desquels on pourrait sortir. Mais comme on est piégé à l'intérieur, on ne s'aperçoit pas qu'il y a une issue. Et qu'en fait, il suffit de pousser le rideau pour passer de l'autre côté. Et fort heureusement, j'ai dit non, pas le métal. Pas le métal parce que je veux que ça puisse bouger. Ou en tout cas, je veux que les gens crient comme à Guignol, mais tire-toi, pousse ce truc-là, tu peux passer. Et que comme les seigneurs ne le font pas, ben, que le public soit embêté un peu. empathie avec eux. Donc c'est ça qui est extraordinaire avec les ateliers, c'est qu'ils ont des spécialités dingues. Vous avez évidemment les serruriers, les menuisiers, les peintres décorateurs, les sculpteurs, le bureau d'études, les accessoiristes, les tapissiers. Voilà, tu as tous ces corps de métier qui viennent travailler dans une ordonnance très savante sur le spectacle, et que tout ça doit s'ordonner, et qu'il faut quand même, c'est comme si vous aviez un petit poussin qui s'appellerait l'émotion première du décor, et que vous sortez et que vous avez, je sais pas, 10 km à faire avant de leur reposer le poussin dans une autre, et pendant ces 10 km, des gens viennent vous parler, vous tirent par la manche, etc., soufflent dessus, il y a des tempêtes, il pleut, etc., et qu'il faut quand même que le poussin soit exactement le même à la fin, sauf que le poussin est devenu un gros coucoui, parce que c'est le décor véritable. Et ça m'a toujours fasciné, parce que ce sont des gens en plus qui ont des métiers qui sont des métiers d'usinage. Moi, j'appelle ça la forge de Vulcain quand je vais aux ateliers de construction, parce que la taille des outils, personne n'a des perceuses à colonne comme ça dans son garage, même pour les plus bricoleurs d'entre nous. C'est des outils de géants, et tout ça pour que, à la fin, la présentation de l'image, les gens fassent ouh, parce que c'est léger, parce que c'est volatile, parce que c'est de l'émotion. Et que je trouve que la différence entre les deux est magnifique à penser. Et puis ce sont des gens qui sont joyeux, parce qu'ils font jamais la même chose. Pour un spectacle de Denis, toujours un fantasio, il voulait que le roi de Mantoue, qui est une espèce de roi un peu ridicule, un peu esselé, ait quelque chose de son royaume avec lui. Donc j'avais proposé à Denis qu'il y ait une valise qui s'ouvre et qui donne une sorte de transat, comme avec un toit dessus, et qu'il y ait une autre valise où il ait une flasque de whisky, un petit verre, voilà, comme les dinettes qu'il y avait dans les Ferrari à l'époque, un truc comme ça. Et bon, c'était très compliqué que cette valise qui devait s'ouvrir avec un mécanisme à l'intérieur qui soit simple à faire, pas trop lourd, etc. Et je me souviens très bien du moment où on peinait sur cette chose-là, et puis il y a un moment où on avait fait une pause, et quelqu'un a regardé un paquet de cigarettes sur la table, a vidé toutes les clopes devant son collègue, il dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» a pris un cutter, puis il a ouvert le paquet de Marlboro en disant « mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est exactement un paquet de Marlboro ». Et que derrière, la déclinaison de ça a donné un objet absolument... absolument magnifique. C'est là aussi, c'est le bonheur de ces métiers. Il y a un homme qui s'appelle Raouf et qui est tapissier à la Comédie Française. Et lui, c'est lui qui avait demandé à faire le revêtement en cuir de cette malle qui devait être évidemment très très, très belle. C'est le prince de Mantoue. J'ai dit, mais bien sûr, Raouf, il y a un moment, il m'a convoqué pour le faire et j'ai cru qu'il était en train de se suicider devant moi parce qu'il y avait un verre avec des clous, et tout en parlant, il a avalé les clous, puis il a continué à parler. Et j'étais un peu interdit, je ne savais pas du tout comment réagir. En plus, il n'avait pas du tout l'air dépressif, très heureux de me montrer son travail. Et en fait, je l'ai vu prendre un marteau, me mettre, sortir, coller un clou, le taper, tourner le marteau et l'enfoncer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges des clous? Et il me dit, mais tu connais pas ça? J'ai dit, ben non. Il me dit, ben on perd beaucoup trop de temps à prendre les clous, à le poser, etc. Donc en fait, on les avale. Et puis, il y a sur un côté du marteau, il y a un petit aimant. Donc on le tourne dans sa bouche pour le mettre du bon côté. On le pointe et on retourne le marteau et on l'enfonce avec. Et c'est très impressionnant à voir. Il m'a dit, mais c'est une technique italienne. Et en Italie, les vrais artisans, à l'époque, mangeaient à midi des pâtes avec une certaine sauce qui était collante pour que leur salive, parce que c'était pas aimanté, pour qu'ils puissent coller le clou avec leur salive pour faire ça. Donc, et il a fait un objet merveilleux. Merveilleux, et il m'a dit, Eric, est-ce que tu penses que, parce que tu vois dans les valises Ferrari, tous ces trucs-là, souvent c'était siglé. Je dis oui. Il m'a dit, est-ce que tu crois que, parce que je suis tellement fier de cet objet, est-ce que tu crois que je peux le signer? Je lui ai dit, mais évidemment, ah ouf. Il m'a dit, il a sorti la plaque qui était déjà préparée et qu'il a collé. Voilà.
Merci beaucoup, Eric Ruff.
Mais je vous en prie.
Et à très bientôt. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.